France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Claudine Galéa. J'ai lu Munitions d'amour et j'ai été particulièrement frappée par à quel point vos mots m'ont transportée à l'intérieur du corps d'écrit. J'étais dans la tête du personnage, évidemment, mais j'étais surtout dans son corps.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un cancer des seins, des mots, du désir, de l'amour, du théâtre et ce que l'on peut en faire aujourd'hui dans votre book club. À partir de l'annonce de sa maladie, la grande dramaturge Claudine Galéa écrit ce qu'on lui dit, ce qu'elle entend, ce qu'elle endure, ce qu'elle en garde, ce qu'elle découvre. Je ne peux pas rester un jour sans écrire. Ça ne sauve de rien, mais ça fait vivre. Dans ce texte à l'énergie frontale, palpite le lien entre l'écriture et la vie quand la vie devient cette phrase « J'ai 52 ans, j'ai un cancer de stade 3, j'ai peur. » La peur ne se dissout pas dans le texte, mais on ressort de cette lecture plus armée que jamais. Claudine Galéa est notre invitée pour son livre « Munitions d'amour ». Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouvons Mohamed Bougarsar. Il choisit pour nous des livres en écho avec l'actualité. Aujourd'hui, il approfondit sa réflexion autour du regard devant des images insoutenables grâce à un texte d'Adolfo Bioy Casares. Et enfin, on jouera au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure, tout recommence. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour Claudine Galéa.
Bonjour Marie.
Munitions d'amour, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Espace 34. Soyez la bienvenue dans le Book Club, on est vraiment ravis de vous recevoir.
Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là.
Ici, vous le savez peut-être, tout commence par un questionnaire lecture. On essaye de présenter ou de faire connaissance ou de refaire connaissance avec nos invités en les rencontrant comme lecteurs et comme lectrices. Et j'avais envie d'orienter un petit peu ce questionnaire lecture aujourd'hui sur la période de la maladie ou plutôt la période qui suit l'annonce du cancer, qui est une période que décrit votre texte. On y viendra évidemment, ce sera au cœur de notre conversation. Mais quelle était la place pour la lecture à partir de l'annonce faite du cancer, Claudine Galéa ?
Alors, il y a le moment de l'annonce et ensuite il y a le moment du traitement, qui sont deux moments différents. Pendant la première série de traitements, je ne pouvais pas lire, je n'étais pas en état de le faire.
Physiquement ?
Physiquement, oui. Je ne pouvais pas me concentrer, j'étais extrêmement fatiguée, enfin, c'était vraiment pas possible. Alors, ce que je sais, c'est que j'ai lu aussi des livres autour de ça, plutôt des livres de scientifiques, des livres de personnes qui avaient traversé ce cancer. Et puis j'ai lu des livres autour de la méditation, autour de voilà, parce que j'ai pas mal cherché aussi de ce côté-là pour pouvoir affronter cette épreuve.
Il y avait des choses qui... Est-ce qu'on peut dire que c'était des livres que vous cherchiez pour répondre à des besoins d'une certaine manière ?
Oui, je pense, oui. Pour essayer de me sentir accompagnée aussi. J'avais pas vraiment l'esprit à lire des romans ou des choses comme ça, quoi. C'était pas possible.
Est-ce que dans votre vie, dans le reste de votre vie, avant cela, vous aviez déjà eu cette dynamique de lecture, de chercher des livres pour des besoins précis ?
Ah, je le fais régulièrement quand j'écris des textes, en fait.
Mais dans une dynamique documentaire, plutôt ?
Dans une dynamique documentaire, absolument, oui. Sinon, non, je crois que ça ne m'était jamais arrivé, non.
Mais je parlais de besoins vraiment
personnels. Si, à un moment donné,
personnel.
Si. Oui, si, à un moment donné, j'ai lu Hannah Arendt pour essayer de comprendre, c'était avant Au bord.
Qui est un précédent texte que vous avez écrit, peut-être on peut en dire quelques mots pour que les gens...
Oui, c'était un texte autour d'une photo de la prison d'Abu Ghraib où une soldate américaine tenait en laisse un prisonnier irakien. Et comme ça faisait écho à une histoire tout à fait personnelle de destruction, je me souviens que j'ai lu notamment Hannah Arendt pour essayer de comprendre, d'approfondir la question du mal.
De manière générale, vous diriez que la lecture prend quelle place dans votre vie ?
Une grande place, depuis toujours, et je lis énormément, oui. Aujourd'hui, je lis plus d'essais, de poésie que de romans. J'ai lu très longtemps énormément de romans. Et aujourd'hui, c'est plutôt des essais et de la poésie.
Est-ce que ce virage raconte quelque chose de vous, de votre parcours,
oui,
en tant qu'autrice ou en tant que femme ?
Alors oui, je pense que ça raconte... Oui, je pense que ça raconte des choses en tant qu'autrice aussi. C'est-à-dire que la poésie m'inspire beaucoup. La façon dont j'écris, notamment pour la scène aujourd'hui, ne ressemble pas à la façon dont j'écrivais il y a 30 ans. Et je suis plus proche de la poésie sans doute que du théâtre, à proprement parler, bien qu'aujourd'hui le théâtre, ce soit quelque chose qui n'est plus forcément... qui explose justement, hein, dont la notion de...
Le texte pour le théâtre est très protéiforme.
Voilà. Moi, je ne dis plus que j'écris de pièces, mais déjà depuis longtemps. C'est plutôt des partitions. Voilà.
Lisez du théâtre? Vous avez lu du théâtre?
Oui, oui. Oui, j'en lis. Je lis du théâtre, toujours. Ça, oui. Voilà. Et puis des essais. Par exemple, je lis chaque nouveau livre de Georges Eddy Huberman, parce qu'il m'accompagne vraiment, comme je lis chaque nouveau livre de Dominique Forcade, de Liliane Giraudon ou de Anne Garçon.
Est-ce que vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres, Claudine Galéa?
Alors, ma mère était institutrice et il y avait des livres, vous savez, il y avait des livres, des collections entières de livres. Il y avait tous les Troya, genre, il y avait tout ça. Elle était abonnée à une espèce de club du livre. Dès que j'ai pu me détacher de ces lectures-là, je l'ai fait.
C'est-à-dire? Quand et pourquoi?
Parce que ça m'intéressait pas forcément beaucoup, même si j'ai lu beaucoup Pearl Buck, Troya, Gilbert Cesbron, ce qu'on lisait, ce que ma mère avait dans, voilà. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, là, je suis allée complètement ailleurs. C'est-à-dire, je suis allée vers des textes qui étaient pas à la maison.
Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Il y a eu Duras, évidemment, il y a eu Faulkner, il y a eu Virginia Woolf.
Dès l'entrée au lycée, 15-16 ans.
Ah oui. Et j'avais un ami avec qui on échangeait des livres, donc il me passait des livres, je les lisais parfois en dehors de la maison. Oui, voilà, je suis allée vers... Puis j'ai eu une prof d'histoire en seconde qui m'a fait lire Guerre et Paix. Un texte aussi complètement inconnu aujourd'hui qui s'appelle d'ailleurs Le soldat inconnu de Guy Sagère. Je ne sais pas s'il a jamais écrit quelque chose d'autre, mais je me souviens encore du titre. Et ensuite j'ai continué à lire des livres qui étaient qui me faisaient avancer et qui me faisaient surtout aller à des endroits qui étaient des endroits soit limites, soit des endroits de littérature réelle, quoi.
Ça veut dire quoi pour vous, la littérature réelle?
C'est-à-dire des écrivains qui prenaient des risques, qui avaient du style, et qui m'emmenaient ailleurs, complètement. La première fois que j'ai lu Faulkner, je pense que c'était Lumière d'août. Et le premier Duras, c'était L'Olvestein, pour moi. J'avais 15 ans, donc c'était pas rien, quoi.
Vous écriviez déjà?
J'écrivais des poèmes à l'époque.
Pourquoi vous rigolez? Parce que... Vous avez dit tout à l'heure que c'était ça la grande force aujourd'hui de textes poétiques, de vous emmener vers votre écriture.
Mais bon, les poèmes que j'écrivais, je pense que c'était...
Vous étiez loin de ce que vous lisez aujourd'hui?
Oui, très loin.
Néanmoins, c'était en vous.
J'écrivais dans les pages des livres. C'était complètement fou. Je prenais un bus. J'avais une heure et quart aller, une heure et quart retour pour aller au lycée. Et donc, je passais mon temps à lire un livre. Je ne voyais rien de ce qu'il y avait autour de moi. Et j'écrivais dans les marges. J'ai gardé un peu cette mauvaise habitude d'écrire sur les pages blanches des livres.
Ça veut dire aussi que vous écrivez beaucoup avec les autres.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
Votre texte, on va y venir, Claudine Galéa, c'est un texte aussi de métamorphose à tout point de vue, bien sûr d'un point de vue physique, physiologique par la maladie, mais aussi dans une trajectoire d'un rapport à l'existence, à la mort, à l'amour, au désir, au corps. Est-ce que ça vous a transformée en tant que lectrice? Est-ce que vous pensez que vous êtes une autre lectrice depuis cette maladie? Ou après avoir traversé cette maladie?
Je pense pas. Non, je pense pas.
Ça n'a pas touché ça?
Non. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de poésie depuis une douzaine d'années. Donc, je n'y ai jamais réfléchi.
Mais égale 2013 c'est... plus 12 égale 2025 quand même.
C'est ça, voilà. Mais après, ça n'a pas transformé mon appétit de lectrice et ma... Voilà.
Quand vous avez retrouvé des forces, vous y êtes revenue?
Ah oui, tout de suite, oui. Dès que j'ai pu, oui.
Est-ce que vous avez des horizons de lectrice? Est-ce que vous vous dites de manière certaine que vous avez rendez-vous avec tel ou tel texte ou telle œuvre?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des auteurs ou des autrices que je suis, donc j'attends le prochain livre.
Ça, vous l'avez dit, donc c'est, disons, plus une attente habituelle. Ouais. Mais quelque chose où vous n'y êtes pas encore allé, mais vous vous dites, Ah, je pense que j'irai un jour. Je pense que ça me plaira.
À l'heure actuelle, non, j'ai eu ça avec Proust à une époque.
Et vous y êtes allée finalement ?
J'y suis allée.
Et alors ?
Ah ben alors, c'est une grande aventure intérieure, je dirais. Voilà, et puis il y a les textes que j'ai envie de relire. Bon, Faulkner, c'est régulier, c'est tous les 4-5 ans, je me dis, ah cet été, je relis un texte de Faulkner. Voilà, c'est plutôt...
Qu'est-ce que vous cherchez dans cette relecture ?
Je cherche en fait le fait d'être à nouveau dans le mystère de cette écriture. C'est-à-dire de relire un livre que j'ai déjà lu. Ça me fait pareil avec « Sous le volcan » de Malcolm Lowry, qui est un livre qui m'accompagne depuis longtemps. Et ce que je trouve extraordinaire chaque fois, c'est que je ne suis pas au bout de ma lecture quand je l'ai terminée.
L'opacité demeure, ou peut-être elle se déplace, mais il n'y a rien qui est complètement dévoilé.
Oui, c'est
dévoilé.
Ça. Il n'y a rien qui est complètement dévoilé. Il y a une vibration qui demeure intacte et entière, et qui fait que j'aurai encore envie de le lire.
On va parler de votre texte, Claudine Galéa, « Munitions d'amour », juste après cette reprise de « Modern Love », une chanson de David Bowie par Zao de Sagazan. C'était il y a pile poil un an ou presque au Festival de Cannes devant la réalisatrice Greta Gerwig et nous toutes et tous. Elle était présidente du jury, elle était émue aux larmes. Dans cette chanson, Bowie écrit en 1982 ses relations contradictoires avec l'amour et avec la religion. Aucune confession, aucune religion, il ne croit pas en l'amour moderne, mais il essaye quelque chose, il dit « Je me tiens face au vent et je ne dis jamais au revoir ».
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Des munitions d'amour pour la vie du futur. Aujourd'hui, dans votre Book Club, des munitions d'amour pour mener le combat contre un cancer du sein, stade 3, 8 mois de chimiothérapie, opération, joues creuses, ongles craquelés et cicatrices qui démangent. Pour ne pas se perdre complètement de vue, il y a l'écriture. C'est elle qui s'impose tous les jours. Claudine Galéa, c'est ça que vous écrivez dès le début de votre texte. Écrire jamais encore suffisamment assez. Le seul désir est un désir de vie, écrivez-vous encore.
corps, dans un texte qui s'entend, qui s'écoute, qui nous harponne et demande à ce que l'amour parle plus haut, plus fort, plus nu. Munitions d'amour, c'est le titre de votre livre, paru aux éditions Espace 34, et on continue d'en parler aujourd'hui avec vous, Claudine Galéa. On écoute la voix de quelqu'un qui a prononcé l'une des phrases qui scande, qui appelle ce texte.
Avant tout, on est là pour travailler sur un texte. Et pour moi, le théâtre, c'est un lieu où on vient écouter. Il me semble, hein, on vient là d'abord, il y a un acte, on vient là, on décide d'entrer dans ce lieu-là, et on vient écouter.
Si on l'écoute pas, on n'entend pas.
Voilà. Moi, on me donne la parole, j'essaye de la prendre parce que je vois pas autour de moi et dans le monde politique et chez les philosophes des gens qui la prennent comme j'aurais envie de l'entendre. Alors je me dis, je vais essayer de porter la parole des gens que je respecte et qui m'apprennent des choses comme Pasolini. Et moi, je vais essayer, avec mes maladresses, de la prendre juste pour faire des petits protestes. Prendre la parole aujourd'hui, je crois que c'est très important, et c'est très important après dans le choix des auteurs qu'on monte aussi, mmh. Ça, parce que moi je me sens très très responsable quand je décide de monter un auteur, pas par rapport à l'auteur, par rapport au public, de savoir pourquoi je choisis cet auteur-là plutôt qu'un autre, quelle parole je choisis de défendre.
J'ai 52 ans, j'ai un cancer de stade 3, j'ai peur. C'est là que ça commence, avec ces mots, avec la peur. C'est comme ça que ça commence en vrai, dans la vraie vie. Et comme ça, quand tu m'écris, parce qu'un jour tu m'écris, moi, ça me plairait de porter ton cancer sur scène. C'est brutal. C'est inattendu. Je trouve ça violent. Je trouve ça obscène. Et vrai. Tu touches en plein cœur. Comme on le dit pour une cible, tu as tes raisons. T'es morte pour dire ça, pour me demander ça. Mais moi, ça me plairait de porter ton cancer sur scène. Ta phrase m'élance, ta phrase me ramène au seul commencement possible. J'ai 52 ans, j'ai un cancer de stade 3, j'ai peur. Il n'y a pas d'autre commencement que celui-là, frontal. Comme elle annonce, frontal, en pleine gueule. Et immédiatement, dans les jours qui suivent, les semaines, les mois, la phrase devient la seule phrase. J'ai 52 ans, j'ai un cancer de stade 3, j'ai peur. Je ne dis même pas « j'ai un cancer du sein ». Non, le mot « cancer » a tout écrasé. On est en 2013 et le mot « cancer » écrase encore tout.
C'est le début de votre texte, Claudine Galéa, et juste avant, la voix du metteur en scène Stanislas Nordet, qui parle de sa responsabilité en choisissant les textes qu'il porte sur scène, qui parle de son désir de prendre la parole, de ce que c'est comme acte politique, citant aussi Pier Paolo Pasolini comme guide à le faire. Celui qui prononce ou qui vous écrit la phrase « Moi, ça me plairait de porter ton cancer sur scène », c'est lui. Est-ce qu'il y aurait deux commencements à ce texte-là? Qui serait « J'ai 52 ans, j'ai un cancer de stade 3, j'ai peur » et « Moi, ça me plairait de porter ton cancer sur scène », ce seraient les deux fusées de lancement, Claudine Galéa ?
En fait, la première phrase, c'est « Moi, ça me plairait de porter ton cancer sur scène » parce que il m'a écrit effectivement ça, je n'avais pas pensé écrire un texte, voilà. Et ensuite, la phrase de départ du texte, c'est « J'ai 52 ans ». Voilà.
Souvent, quand vous travaillez, dans vos précédents textes, vous évoquiez tout à l'heure Au bord, qui est un texte important pour le théâtre français, pour la littérature contemporaine, pour lequel vous avez été évidemment primé. Il y a quelque chose qui est une sorte de point de départ, un choc, c'est presque le mot traumatique qui me vient en tête, comme une propulsion de l'écriture. Est-ce que vous diriez que, en termes de procédé d'écriture, puisqu'il en est en question, ça a fonctionné pareillement ou différemment, Claudine Galéa?
Oui, c'est effectivement le « je pars du choc ». En fait, quand il m'a dit ça, il a touché juste et je me suis dit « bon, il est gonflé de me demander ça ». Mais il touche juste.
Il touche où pour toucher juste? Parce qu'en l'effet, vous dites c'est cruel, c'est brutal.
Il touche à l'endroit nécessaire. Voilà, il touche à l'endroit nécessaire et qui, à un moment donné, forcément, va être dans l'écriture, je le sais. Sauf que j'avais pas prévu d'écrire un texte autour avec, sur le cancer, comme ça. Et c'est mon désir aussi d'écrire pour lui, puisqu'il voulait que j'écrive pour lui comme acteur. Voilà, c'était... cette demande, elle était une forme de, en même temps, de défi et de confiance, parce qu'on se connaît bien, puisqu'il a monté au bord, on se connaît bien, on s'est côtoyé au Théâtre National de Strasbourg. Et évidemment, je me suis dit, enfin, je me pose pas la question parce que sinon j'y vais pas dans l'écriture. Donc il faut qu'à un moment donné, ça parte. Et c'est parti avec cette phrase. Après coup, je me dis, mais j'aurais pu écrire complètement différemment autour du cancer. Évidemment, il y a en cours de route, je me suis dit, mais parce que j'ai écrit ce texte pendant presque 3 ans, c'est pas très long, mais bon, voilà.
C'est pas très long le texte ou c'est pas très long 3 ans?
C'est pas très long le texte.
Il est pas très long, mais 3 ans pour l'écrire, ça peut paraître.
Je n'ai pas fait que ça pendant 3 ans non plus. Mais disons que pour arriver à la version définitive, la version publiée. Et en même temps, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Effectivement, c'est une phrase, voilà, c'est ça qui m'a lancée. Donc, et c'est ça qui est devenu, on va dire, le fil rouge du texte. Oui, l'histoire de la peur.
Il y a une scansion comme ça, une construction du texte, et on va dire en 5 moments. Et la première, c'est une affaire de mots. Et on le sent, Claudine Galéa, que dans la manière dont vous traversez cette expérience, depuis l'annonce de la maladie, la mise en place du traitement, l'information qu'on vous donne sur là où vous en êtes dans votre corps, dans votre vie, dans la peur de la mort, les mots, la place des mots est fondamentale. Et on voit que votre esprit, que votre oreille fait le tri, que vous êtes vraiment percuté, imprimé par certains mots, d'autres vous les laissez de côté. Comme si écrire sur le cancer, c'était écrire aussi sur la manière dont vous aviez dealé avec les mots pendant cette période-là.
Oui, alors je suis extrêmement attentive aux mots. Et on sait très bien que quand on se retrouve avec le corps médical, avec des médecins, et qu'on est malade, chaque mot prononcé, on l'entend très fort, quoi.
Et on l'entend pas.
Ou on l'entend pas. Et les mots, et ce qui nous est dit est parfois très contradictoire, et donc c'est très difficile de s'y retrouver avec ça. Et pour moi, la façon dont on me parle ou dont on s'exprime et ce que j'entends sur quelque sujet que ce soit, c'est extrêmement important pour moi parce que, voilà, c'est pour moi, c'est l'endroit où on est juste ou on n'est pas juste. Donc évidemment, ça s'est mélangé à l'écriture après, au moment d'écrire, voilà. Et puis je peux pas séparer, je ne peux plus séparer l'écriture de la vie.
C'est vraiment ce que raconte ce texte aussi, je trouve, non? C'est vraiment la manière dont la vitalité et l'écriture vont de pair, Claudine Galéa.
Oui, et puis parce que dire les choses à l'endroit juste, c'est pouvoir aussi continuer à vivre.
Vous diriez que l'expérience que vous avez faite du langage a été de quel ordre pendant toute cette période-là? Est-ce que vous avez eu l'impression d'entendre les mots qu'il fallait? Est-ce que vous avez été étonnée de retenir certains mots et pas d'autres? Par exemple, dans le passage lu par Jeanne Aléos, le mot « saint » est comme barré, il est muet.
Oui, c'est que ça cancer vous a qui a tout emporté. Ouais. Et ben justement, quand j'écris, c'est ça qui m'interroge et c'est ce que je vois quand j'écris. Parce que quand je le vis, je vois pas forcément les choses. Surtout quand on vit quelque chose comme ça, où on est quand même hypersensible et tout le temps sur la brèche, on va dire. Et quand j'écris, tout d'un coup, je me rends compte de ça. C'est vrai que j'ai dit tout de suite, j'ai le cancer. Et je l'ai réalisé quand je l'ai écrit, en fait. Et je me suis dit, ben oui, le cancer a tout emporté. Tout ça, c'est dévoré par ce mot qui déjà, depuis qu'il y a des maladies du cancer, qu'on l'a nommé, c'est toujours quelque chose de l'ordre du trauma. Et ça n'a pas beaucoup changé, finalement. C'est-à-dire qu'au fil du temps, si on pense à ce qu'en raconte Audre Lorde ou Suzanne Sontag...
Qui sont deux femmes qui ont écrit, justement, voilà, sur leur expérience de la maladie.
Je me dis, mais avec tout ce temps qui a passé, pourquoi on est encore percuté avec cette violence, quoi? Qu'est-ce que ça nous fait, quoi, à ce point-là? Il y a énormément d'autres maladies qui sont aussi graves et plus graves que le cancer, mais le mot cancer, c'est rester quelque chose à la fois de tabou, de spectaculaire, de terrible. Donc il faut aussi enlever du terrible, je dirais. Il faut enlever aussi, il faut dédramatiser aussi quelque chose de ça. C'est tout un travail quand on le vit. Et quand on l'écrit, c'est encore un autre travail.
Mais justement, est-ce que vous pouvez parler plus en précision, Claudine Galéa, de ce que permet le travail d'écriture dans l'après-coup ? Vous dites, c'est en écrivant que j'ai compris que j'avais gommé le mot saint. On a l'impression aussi que c'est en écrivant que vous retraversez des choses presque pour vous les réapproprier, pour les réincorporer. Le rapport à un nouveau corps, le rapport au désir, le rapport à la mort, à la peur. Est-ce que ce sont des choses qui sont comprises en les écrivant ?
Complètement comprise, oui, en les écrivant, oui. Il y a ce qu'on ressent, et puis il y a ce qu'on réalise. Je dirais que c'est toujours de temps pour moi dans l'écriture, c'est-à-dire que dans la vie, quand je pars de choses que j'ai vécues, c'est pas toujours moi qui ai vécu les choses, mais il y a ce qu'on ressent et qui fait que je sens qu'il y a une nécessité d'aller voir, d'aller voilà, alors à la fois pour comprendre mais aussi pour pouvoir le transmettre, c'est-à-dire que la précision, c'est ce qui permet à la fois de c'est ce qui permet de pas trop errer finalement. Et quand j'ai traversé l'épreuve du cancer, comme plein d'autres personnes qui la traversent, il y a des moments où on est dans l'errance. Hein. On est dans l'errance, on est dans l'angoisse. On sait que l'angoisse paralyse. Écrire, c'est enlever de la paralysie. C'est enlever de l'arrêt, c'est rester en mouvement. Voilà. Donc, pour moi, c'est important aussi de pouvoir le dire pour les autres. Voilà. Et c'est la précision d'écriture, c'est aussi le fait de débrouiller des nœuds qui sont un peu comme ça, où on est un peu dans des choses compliquées plus que complexes, et que le compliqué, c'est quelque chose dont on peut pas faire grand chose. Ça permet de retrouver un usage de la vie d'écrire, pour moi.
On va écouter la voix de Laure, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre Munitions d'amour et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Claudine Galéa. J'ai lu Munitions d'amour et j'ai été particulièrement frappée par à quel point vos mots m'ont transportée à l'intérieur du corps d'écrit. J'ai vraiment eu cette sensation de vivre dans mon propre corps ce qu'elle vivait elle-même. J'ai été en empathie, mais plus encore. J'ai vécu avec elle les changements du corps, les douleurs, les questionnements, comme si je voyais mon propre corps évoluer par vos mots. J'ai vécu physiquement la réappropriation du corps, l'expression de genre. Qu'est-ce qu'un corps féminin ? Qu'est-ce qu'un corps féminin lorsqu'on est malade ? Alors, est-ce que ces questionnements sur la féminité du corps se sont imposés avec l'écriture sur le cancer ? Ou est-ce que le thème a tout simplement mis en évidence des questionnements déjà présents chez vous ? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage précis de votre lecture et pour cette question ou ces questions, Claudine Galéa. J'aurais envie de prendre les choses en deux temps, si vous voulez bien. Dans un premier temps, ce que Laure dit de la pulsation du corps décrit, dit-elle, j'ai presque pu sentir comme à l'intérieur de mon propre corps le corps écrit ou le corps décrit, puisque vous dites, Claudine Galéa, qu'il y a un enjeu de transmission dans votre texte Munitions d'amour. Est-ce que ça vous intéresse, là, ce qui peut se passer presque de corps à corps par l'écriture ?
Oui, alors c'est mon travail, hein, ça, de toute façon. C'est pas propre à ce texte-là, mais évidemment, le cancer, c'est le corps. Je veux dire, on n'y échappe pas. Mais pour moi, c'est toujours à travers le corps, l'expérience du corps, que quelque chose... L'expérience du corps, c'est aussi l'expérience de l'esprit. C'est aussi l'expérience du vivant. C'est l'expérience de l'esprit. C'est-à-dire, je dis pas forcément en termes de spiritualité, mais de la pensée. Mmh. Le corps et la pensée, pour moi, vont totalement ensemble. Mmh. Et du coup, le corps me fait penser. Voilà.
Donc, c'est pas très étonnant que si le corps vous fait penser, d'une certaine manière, vos mots par le corps puissent permettre de faire penser les lecteurs et les lectrices et vice-versa. Enfin, c'est-à-dire que tout ça est une circulation.
C'est ça.
Continue.
Et c'est le travail de l'écriture, vraiment, parce que arriver à essayer de retrouver, je dirais, toutes les micros, les, les micro-expériences du corps, ça, c'est un gros travail de l'écriture.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Quand je raconte la période où je suis dans le lit allongé et que je tout matin à un point démultiplié, que ce soit une porte qu'on ouvre, un drap qu'on retire. Voilà, ça, c'était très difficile parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de retrouver dans ma sensation. C'était une période de début de traitement, c'est une période très difficile. Et retrouver ça par l'écriture, ça m'a demandé un travail infini, par exemple.
À la fois du point de vue du langage, que du point de vue de la récupération sensorielle, mémorielle.
C'est ça, et du rythme de ça, et qu'est-ce qui vient, comment ça vient, comment essayer de retrouver cet état, parce que cet état, il est commun à tellement d'êtres humains qu'il faut pouvoir le retransmettre pour que... Enfin, ce qu'a dit cette lectrice, je la remercie vraiment beaucoup, Laure, qu'elle avait revécu ça. Donc pour moi,
je sais même pas si c'est revécu d'ailleurs. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant. On sait même pas quelle est l'histoire de Laure avec la maladie ou le corps affaibli, etc. Il y en a peut-être pas. Et c'est encore plus puissant l'idée qu'elle est plus traversée par l'écriture, Claudine Galéa, quelque chose qui se rapproche de ce que vous avez vécu. Vous.
Et pour moi, ça c'est vraiment un magnifique compliment parce que c'est ce que j'essaie de faire dans l'écriture, quel que soit le texte que j'écris. C'est que ça nous passe par le corps, l'écriture, quel que soit ce qu'on raconte, c'est que ça puisse passer par le corps, parce que c'est sans doute ce qui a été important pour moi quand j'étais une jeune lectrice, j'imagine. Et en tout cas, c'est vraiment mon travail. C'est que ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un exercice vivant.
Oui, et ça finit par être intellectuel. Enfin, ça finit par être de la pensée, quoi qu'il en soit.
Bien sûr.
La deuxième partie de la question de Laure peut-être s'adresser à tout ce que votre texte, on va dire, charrie de penser autour du corps féminin. Alors, il se trouve que votre texte élargit bien largement la question de féminin ou pas féminin, comme le font d'autres de vos textes d'ailleurs, Claudine Galéa. Elle vous demande si la traversée du cancer du sein a précisé ces thématiques-là. Est-ce que ça a orienté un peu votre écriture?
Non, ça l'a pas orienté. C'était vraiment, je dirais, l'expérience du corps humain. Je suis une femme, donc c'est un corps de femme. Mais j'ai vu beaucoup d'hommes dans les salles d'attente atteints de cancer du sein. Voilà, ça on le sait moins. Donc non, c'est plutôt l'expérience du corps pour moi qui a dominé. Étant une femme, c'était mon corps. Mais j'ai pas cherché la féminité particulièrement.
Mais est-ce que par contre, cette expérience de la maladie a ouvert un spectre nouveau pour vous sur votre écriture qui justement travaille ces questions de corps, de limites des corps, de bords des corps, y compris dans les questions de genre ou de sexualité? Est-ce que ça a créé des images, par exemple, nouvelles, Claudine Galéa, des sensations nouvelles?
Je ne sais pas répondre à ça. Mm. Je pense que c'est un cheminement pour moi qui se traverse à travers plusieurs textes. Et donc, je ne saurais pas dire ce qui est de ce texte-là. Je le saurais peut-être plus tard, mais à ensuite modifier les textes suivants. Non.
Le fait que dans la maladie, au plus dur parfois de la maladie, se pose la question du désir, se pose la question d'un corps disponible ou pas pour l'acte sexuel, se pose la question des partenaires sexuels dans ce moment-là, est aussi un enjeu, il me semble, assez politique de faire cohabiter des moments immunitaires faibles et la question de la sexualité. Est-ce que vous y teniez, Claudine Galéa?
Oui, parce que c'est quand même... je veux dire, les modifications du corps sont telles que c'est d'une grande violence et qu'on n'est pas seul dans l'existence et que du coup ça c'est très voilà et ça il faut en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de à quel point ça modifie le corps, ça modifie hormonalement le corps, ça modifie l'état du corps et comment on fait avec ça, comment on vit avec ça parce que c'est ça la question aussi, c'est comment on vit avec ça et donc pour moi c'était très important d'en parler. Oui.
On va écouter Claire Marin, elle est philosophe et elle a réfléchi à ces questions de maladie, de vie avec la maladie. Elle est au micro de l'émission Avec Philosophie en 2022.
Le processus de la maladie est un processus où s'accumulent les expériences de perte en réalité. C'est une dégradation au sens où on va sans doute devoir renoncer à une partie de sa vie professionnelle, sociale, où sa vie familiale va être aussi réduite ou abîmée à certains endroits. Donc il y a ces différentes étapes qui peuvent donner effectivement un sentiment de chute. Je crois que c'est quelque chose comme une espèce d'inquiétude en fait, et de rapport à soi, une forme de dédoublement. On est toujours en train de s'observer, de s'ausculter, on est toujours dans l'inquiétude du moindre signe qui devient nécessairement un symptôme. On devient spécialiste de sa maladie, enfin, le corps, on pourrait presque dire, devient tout le temps suspect. Et on va être dans une espèce de paranoïa face à n'importe quel signe qu'on ramène nécessairement à cette pathologie. Et l'apprentissage de la maladie, c'est peut-être aussi d'accepter que ça continue à être un corps banal, qui peut avoir juste des rhumes, juste la grippe, entre guillemets. Et que, en fait, c'est plus qu'un dédoublement. Il reste encore quelque chose de l'ancien corps en bonne santé. Et puis, il y a cette espèce de corps avec sa pathologie propre. Ce qui fait qu'il reste plus beaucoup de place pour un corps de plaisir, de facilité, un corps sportif, un corps aimant.
Voilà, c'est ce qui reste. Du cancer, c'est ce qui reste. C'est ce qui arrive avec lui et ce qui reste après lui. C'est elle qui reste. La peur. Toi, tu me dis que tu n'as pas peur. Je te crois. Mais tu n'as pas été malade. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas cette maladie. À propos de laquelle les médecins te disent « La maladie est là, quelque part. Elle peut ressurgir n'importe quand. À la faveur d'une dépression immunitaire. » La dépression immunitaire a des origines physiologiques ou psychiques. Aussi, tu te méfies de tout. De tes baisses de régime, de tes coups de blues, d'un mal au dos persistant, de coliques à répétition, de fatigue chronique, des cheveux qui tombent, d'une toux continue, de vertiges fréquents, de tes nerfs énervés, de tout. Tu en oublies que tu ne sais pas te reposer, que tu frôles constamment les limites, que tu flirtes avec le burn-out, que Paris est une ville épuisante, que l'absence de soleil te rend neurasthénique, et surtout que tu vieillis. Le cancer oblitère toutes les autres causes de fatigue. Le cancer est une raison, une excuse pour tout. Et tout fait prétexte, tout adresse un signe au cancer. Tu perds la tête. Tu dois constamment te reprendre, te raisonner, te déprendre de cette obsession, de cette peur perpétuelle. Tu es obsessionnel. Alors ce n'est pas facile. Pourtant, tu as fait des progrès. Tu as appris à positiver. Tu l'as appris conséquemment et volontairement. Mais la volonté ne vaut rien. Tu ne peux pas compter sur la volonté. La volonté est une fausse amie. La volonté est un forçage. Seuls les faits sont vrais. Seuls les faits ont des conséquences. Seules les conséquences ont du poids. Tu peux compter sur les faits et leurs conséquences. Le fait cancer t'a conduite à jouir de choses minuscules, de choses simples. Le soleil entrant par la fenêtre de la chambre, la lecture sur un transat dans le jardin, des heures sur un transat, à lire, à somnoler, à écouter le chant des oiseaux, à regarder le balancement d'une branche d'arbre au-dessus du lac, à retrouver le goût de la première fois.
Un extrait de votre texte « Munitions d'amour ». Juste avant cela, il y avait la voix de la philosophe Claire Marin qui parlait de plusieurs modifications de l'esprit et du corps pendant la traversée de la maladie, notamment celle de la peur. On entend qu'il y a à la fois dans votre texte toutes les pertes, tout ce qui est coupé, amputé, rendu difficile, rendu impossible, et tout ce qui est, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, je ne sais pas comment le dire autrement là maintenant, mais gagné, quoi. Tout ce qui entre, en fait, tout ce qui sort et tout ce qui entre, d'une certaine manière, Claudine Galéa. Oui. Est-ce que vous diriez que l'expérience du cancer, telle que vous le racontez dans Munitions d'amour, c'est un peu de cet ordre-là ?
Oui, oui, ça m'a ouvert des portes. Hein. Ça m'a modifiée, je pense, comme personne.
Parce que vous n'en êtes pas morte.
Bien sûr.
Non, mais voilà. Il y a quelque chose aussi de très vivant de cet ordre-là, tout bêtement, quoi.
Mais bien sûr, mais c'est, je veux dire que quand on traverse cette épreuve, si on en sort vivant, vivante, oui, on vit les choses un peu autrement. Après, de nouveau, on oublie les choses. Mais moi, je sais que chaque fois, à chacun des cancers, j'ai appris des choses. Ça m'a ouvert aussi sur le monde. Ça m'a ouvert sur quelque chose de positif, en effet, sur quelque chose de, sur des joies simples mais essentielles, je dirais. Ça m'a aussi, je pense, appris à regarder un peu à l'extérieur aussi, à voir. Parce que moi, je vois beaucoup dedans, je vois beaucoup enfermé dans ma bulle d'écrivaine, je vois beaucoup comme ça. Et là, ça apprend aussi à être au présent. En tout cas, le temps de la maladie, oui. Après, il faut garder ça en soi, c'est pas toujours évident, parce que quand la vie reprend ses droits, on redevient un peu, ce qu'on a toujours été.
Il y a une adresse, il y a des moments d'adresse dans Munitions d'amour, un tutoiement, quelque chose qui va vers nous, peut-être Stanislas Nordet, peut-être un être aimé ou une être aimée, Claudine Galéa. Comment est-ce que vous avez jaugé cette adresse-là?
Alors, j'ai travaillé sur le je et le tu, évidemment. Le tu étant ce tu qu'on s'adresse à soi-même aussi, parce qu'on se parle aussi beaucoup. Et on se parle beaucoup pendant la maladie parce qu'on s'interroge beaucoup sur comment on est et qu'on est quand même, soi avec soi. Hein. C'est une expérience où on est soi avec soi. Finalement, comme l'écriture, je me rends compte. Et du coup, on se pose à soi-même des questions et c'est important de s'en poser.
Et en même temps, où on entend là dans ce que vient de dire Jeanne Aléos, où la volonté... Toute bonne soit-elle, toute motivée soit-elle, est une fausse amie. Je trouve que c'est très beau aussi de le dire aussi clairement.
Mais oui, parce que on veut, mais non, je crois que la volonté, ça aide pour aller en traitement, etc. Mais ça suffit pas du tout. Et c'est aussi pareil dans l'écriture. La volonté suffit absolument pas pour écrire. Donc
c'est autre chose, c'est un autre endroit.
C'est un autre endroit, oui. Ouais. Voilà. Et après, ce tu, oui, la dernière partie, j'ai eu pas mal de discussions avec Stanislas aussi. Et du coup, tout d'un coup, c'est un tu où je lui parle à lui, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Évidemment.
Parce que c'est un texte, on l'entendait tout à l'heure, je trouve, dans le témoignage de cette auditrice qui vous a lu, où elle disait qu'elle a été presque étonnée de la manière dont elle s'est fait attraper par le texte. Parce que c'est un texte qui demande, et toi, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de la maladie? Est-ce que tu as peur de la mort? Qu'est-ce que tu fais de cette peur de la maladie dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta peur de la mort? Et finalement, ce sont des questions proprement universelles, Claudine Galéa.
Ouais.
Qu'on soit ou non proche ou pas atteint par la maladie, il y a quelque chose qui nous ramène à quelque chose de très serré, quoi, de très simple. Enfin, je sais pas comment dire, très simple et d'un gouffre en même temps.
Ah oui, mais c'est exactement ça, cette traversée de la maladie, des maladies importantes, enfin voilà, où on risque de mourir. Hein, ça nous renvoie à des questions à la fois énormes et en même temps premières. Et évidemment, la question de la mort, elle est là. Donc ça me permet aussi d'aller voir ça. Ça ne veut pas dire que je réponds aux questions.
Pas vraiment, voilà. En fait.
Non, en pas plus. Vraiment. Mais est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Mais au moins les traverser, se les poser tout simplement publiquement, je dirais, ce que permet l'écriture et ce que permet le théâtre aussi, mais l'écriture déjà. Voilà, et de les énoncer, parce qu'il y a tellement encore de choses qui ne sont pas dites et pas énoncées.
Oui, c'est ça. Vous n'y répondez pas, mais vous les faites présentes. Les faire présentes, c'est déjà très agissant.
Oui. Et c'est des questions, en fait, qu'on pourrait avoir tout le temps dans la vie, mais qu'on laisse de côté. On les a dans l'enfance. Les enfants posent des questions de cet ordre-là.
On va écouter la fin du texte, peut-être pour parler de ce titre « Munitions d'amour ».
Peut-être qu'il reste l'amour, cet amour qui est là et qu'on ne voit pas. Dans la vie normale, on ne le voit pas, l'amour. On ne le voit pas, cet amour normal. Un amour hors norme. Dans la vie du cancer, un jour, on le voit. On voit l'amour, il est là. Le corps doux de l'amour. Un accord amour. Une douleur amour. Un péril amour. Un silence amour. Une buée posée sur la bouche. Peut-être que l'amour n'a pas encore parlé assez haut, assez fort. Peut-être que tu n'as pas assez écouté. Peut-être qu'on ne dit jamais assez « je t'aime ». Peut-être que je n'ai pas suffisamment taillé la chair du crayon amour, assez dépouillé la peur, pour que amour apparaisse dans sa nudité, la moins éloquente, la plus tendre, cet amour normal, cet amour hors norme. Alors peut-être que comme Michel Piccoli dans un film de Manuel de Oliveira, on sortira acheter des chaussures jaunes, faire quelque chose ou quelques pas de danse, on aiguisera une flèche dans le roseau de l'enfance, on fera provision de munitions d'amour. Et quand on rentrera à la maison, quand tu poseras tes mains sur mes paupières, tes lèvres sur mes lèvres, sans peur, je te demanderai. L'opération amour dit, comment s'est-elle passée ?
Trop beau ce groupement de mots, opération amour, qui vient non pas remplacer, mais qui vient après les opérations autour du cancer, Claudine Galéa. Une opération, c'est aussi une métamorphose, il y a vraiment quelque chose de presque d'un commando amour. D'où viennent ces munitions d'amour, ce groupement de mots là aussi, Claudine Galéa ?
Alors, ben, d'abord, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée pendant cette épreuve. Et c'est vrai que, par exemple, c'est l'une des choses aussi que la maladie nous apprend, c'est à regarder l'autre qui nous accompagne et à vraiment prendre conscience de la dimension de l'amour qui est donné, qui est là. C'est tout d'un coup, on peut avoir des illuminations comme ça, de ressentir tout d'un coup cet amour-là qui est là et dans la vie quotidienne, on n'y fait pas attention. Donc ça, j'avais envie de le dire. Quant au titre lui-même, il vient de Véronique Nordet qui a écrit à ses enfants avant de disparaître. Je lis le petit passage.
Pourquoi pas, puisque vous le mentionnez dans le texte.
Voilà. Donc, et Stanislas m'a donné ce mot qu'elle avait laissé pendant que j'écrivais le texte. L'amour étant ce qui a toujours dirigé ma vie, je n'ai pensé qu'aux êtres que j'aimais, qu'ils ne souffrent pas de mon état et de ma disparition annoncée, et au cas où effectivement je disparaîtrais, leur donner tout l'amour que j'avais en moi, en provision, pour quand je ne serai plus là. Munitions d'amour pour leur vie future, Véronique Nordet. Et évidemment, ça m'est apparu, mais comme le titre du texte, le titre de ce que j'étais en train d'écrire. Et puis, on a toujours dans le cancer un vocabulaire très armé.
Très guerrier.
Voilà,
ouais.
Très guerrier, quoi.
Et là, il y a un double sens génial.
Et je trouve que c'est important qu'on ne soit pas que dans le combat féroce, certes, mais le combat, donc la dureté des choses. La douceur aussi existe grandement quand il provient de l'amour. Et c'est un cadeau qui nous donne de véritables munitions pour vivre.
Au sens aussi de la réserve, c'est qu'il y a quelque chose dans faire provision comme ça de munitions d'amour, c'est être à même de mener des combats. Et on a l'impression que ce texte-là se termine non pas en oubliant que la traversée qui vient d'avoir lieu est celle du cancer du sein, mais en tout cas en se dirigeant vraiment vers un temps futur, vers un temps augmenté, vers un nouveau temps quand même, vers autre chose, Claudine Galéa.
Oui, un nouveau temps, une autre façon de regarder l'obscurité, la lumière.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Alors, il est 15h50 et normalement, à cette heure-ci, en trompette, Mohamed Bougarsar, qui est en résidence pour le Book Club, entre. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Vous avez pour mission d'abord d'enlever votre sac à dos tranquillement et de chercher des livres dans votre bibliothèque en lien avec l'actualité. Donc je vous laisse boire un peu d'eau.
Bon, ça y est là. Merci beaucoup.
Ça marche. Alors aujourd'hui, des mots et la question du regard.
Oui, Marie, les querelles sémantiques partant de tragédie, génocide ou pas génocide, pour qualifier les crimes méthodiques et quotidiens de populations civiles palestiniennes par le gouvernement israélien, islamophobie ou non, famine ou seulement suspicion de famine, les querelles sémantiques, les pseudo-querelles sémantiques, disais-je, s'accompagnent toujours d'une guerre non moins impitoyable d'images. Il y a quelques jours, le soir même de l'ouverture du Festival de Cannes, je tombais en ligne sur l'image bouleversante d'enfants hâves et rachitiques tenant des marmites et sébiles vides. Il s'agit d'une image de jeunes Palestiniens attendant une aide humanitaire, aide qui n'arrive pas. Sous l'image, on s'écharpe. Pour les uns, c'est un tableau de l'inhumanité à travers l'armée israélienne du gouvernement de Netanyahou. Pour les autres, c'est de la propagande, une propagande grossière mise en scène par les idéologues du Hamas, les auteurs des insoutenables massacres du 7 octobre. Un des internautes dit que la photo pouvait être vraie ou manipulée, mais qu'à l'heure des photomontages hyper réalistes, des deepfakes troublants, de vraisemblance, des intelligences artificielles de pointe, on ne pouvait plus fonder notre intelligence du monde sur l'image.
Et je vois, Mohamed, que la question du regard et des images vous travaille, vous obsède, puisque la semaine dernière, ou en tout cas non, il y a 2 semaines, vous aviez consacré votre première chronique à l'aveuglement de Saramago.
En effet, les images m'obsèdent et devant celles-ci, c'est le cinéma, voilà pourquoi j'évoquais la coïncidence cannoise, c'est le cinéma qui a rencontré dans mon esprit la perception de la situation à Gaza. L'un et l'autre interrogent notre rapport aux images et à la possibilité de leur altération. Est-il encore possible de dire « je ne crois que ce que je vois » quand ce qu'on voit peut être une parfaite illusion ? Comment regarder la réalité que menace toujours désormais un doute, la possibilité du simulacre? Peut-on encore penser qu'une représentation possiblement holographique ou simulée du monde en dise la réalité? Les questions ne sont pas nouvelles, on les pose depuis le mythe de la caverne de Platon au moins, qu'on a pu interpréter comme la naissance de la première projection de cinéma. Mais en repensant à ces liens entre image et vérité, j'ai eu l'envie de replonger dans un roman bref et inépuisable, L'invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares.
Alors on va situer rapidement l'auteur. Adolfo Bioy Casares est un écrivain argentin important du XXe siècle. C'est un grand ami de Borges, avec qui il a écrit à quatre mains des nouvelles policières, et dont il partage le goût pour ses récits courts, équivoques, l'énigme à la tonalité fantastique, le style elliptique et élégant, la narration spéculative et métaphysique. L'invention de Morel, c'est son livre le plus célèbre. Et de quoi est-il question là pour que vous le ressortiez ces jours-ci de votre bibliothèque, Mohamed ?
Alors, dans le roman, un homme, dont le nom n'est jamais précisé, se réfugie sur une étrange île où, lui suggère un marchand de tapis italien de Calcutta, il pourra échapper à la justice qui le recherche. Sur cette île moins déserte que désertée, austère et rude, marécageuse et vénéneuse, le fugitif trouve 3 bâtiments, un musée, une chapelle et une piscine. Il se retrouve surtout au milieu d'un monde qui se peuple soudain de personnes qui ressemblent à des estivants, mais dont il ignore tout et qui l'ignore en retour. Le traverse du regard au point qu'il en arrive à douter de la matérialité de son corps. Les visiteurs apparaissent d'un coup, disparaissent aussi brusquement, réapparaissent, font les mêmes gestes, disent les mêmes paroles, s'évanouissent. Et troublé, notre homme, qui tombe amoureux d'une femme, Faustine, laquelle vient chaque soir avec les mêmes attitudes contempler le même coucher de soleil, découvre l'origine de ce qu'il nomme l'hostile miracle. Ce théâtre d'ombre à la mécanique répétitive est une projection du passé, une vie spectrale sortie de l'invention d'un certain Morel. Je n'en dis pas plus, mais notre protagoniste se retrouve rapidement devant cette question : que faire lorsque notre monde, non seulement physique mais mental, intérieur, est peuplé d'illusions si vivantes que nous ne savons plus si nous vivons parmi elles ou elles parmi nous.
Vous venez chaque lundi avec des très très grandes questions, mais si on est proche du cinéma, le lien avec la situation aussi tragique que celle de Gaza n'est pas évident, Mohamed.
J'en ai bien conscience, Marie, et je précise que ce n'est pas ici le sujet qui est en jeu, mais la sensation du monde. Si vous avez, comme moi, l'impression, en ce qui concerne Gaza notamment, d'une forme extrême de déréalisation du réel, alors que rien n'est aussi réel, l'impression que la connaissance des faits ne suffit plus à la connaissance de la vérité parce que le doute sur la véracité des faits sera toujours introduit par un tiers, l'impression que la peau du monde est réversible sans effort et que le faux n'est qu'un vrai ou une modalité du vrai parmi d'autres, l'impression surtout que le passé projette sur le présent et l'avenir des images mortes, alors il faut lire ou relire l'invention de Morel. Ce n'est pas un texte à l'abord aisé, mais une fois passé les premières pages, la langue limpide et l'intelligence d'Adolfo Bioy Casares, l'étrangeté du récit qui se refuse à toute réponse, l'atmosphère de cette robinsonnade fantastique vous retiendront. Vous en sortirez en vous demandant si vous vivez dans un film d'horreur ou à l'intérieur d'un cauchemar. La réponse peut être oui, la réponse peut être non, mais dans les deux cas, l'admettre peut être affreux et le trouble certain. Et je vous donne, Marie, un extrait pour finir. « Je crois, écrit Adolfo Bioy Casares, que nous perdons l'immortalité parce que la résistance à la mort n'a pas évolué. Nous insistons sur l'idée première, rudimentaire, qui est de retenir vivant le corps tout entier. Il suffirait de chercher à conserver seulement ce qui intéresse la conscience. »
Merci infiniment Mohamed Bougarsar. On peut réécouter Lecture d'actu. On devrait tous et toutes réécouter cette lecture d'actu franceculture.fr et on redonne le titre du livre que vous suggérez aujourd'hui.
C'est L'invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares.
À la semaine prochaine.
Désolé.
Bah non, merci. Et à cette heure-ci, on joue à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche la musique dans les livres. Claudine Galéa, on en a trouvé pas mal dans votre livre. Il y a même une page entière avec des chansons de variété française et ce que ça fait dans la traversée de ce cancer en particulier. Mais on va terminer avec un extrait de Munition d'amour. Tu sors de l'hôpital, tu mets la musique à fond, tu te sers un verre de jus de gingembre, tu passes un t-shirt moulant, tu mets tes cheveux courts et blonds, ma belle on dirait un garçon, tu es enfin non-binaire et tu danses en hurlant, martial et maigre, belle en scène, belle comme à la ville, la voir danser me transforme en excité, Moreto comme ta bouche est immense quand tu souris, et quand tu ris je ris aussi, tu aimes tellement la vie, tu chantes et tu gueules et tu danses, Catherine Ringer à fond dans les enceintes. Et les voisins viennent sonner. Vous fêtez quelque chose ? Oui, ma rémission. Votre démission ? Moi, c'est ça, mon admission. Vous avez passé un examen ? Plusieurs même. Et vous avez réussi ? Moi, j'ai tout réussi. Tout réussi à fond. Et tu éclates de rire. Et tu refermes la porte. Et tu es plié en deux. De larmes. Aujourd'hui, c'était Olivier Arnet à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr et poursuivre la conversation et les échanges autour de vos lectures via le compte Instagram animé par Alexandre Alaï-Begovitch. Merci beaucoup Claudine Galéa d'être venue parler de Munitions d'amour. Il a paru aux éditions Espace 34 et il sera mis en scène par Stanislas Nordet fin 2026.
Je pense, oui.
Rendez-vous est pris.